Voilà, Paris, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
No wounded,
sir. Che fa? Aggredisce.
Ma sta tappando, che fa?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Cinéphiles, cinécurieux d'Ardèche et du monde entier, bonjour! Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, on va parler en compagnie de Didier.
Bonjour.
Bonjour Didier. Des films Radio Métronome, Charlotte, la passagère, Aucun ours et les Cyclades, programme chargé. Mais avant ça, après avoir reçu la semaine dernière Christophe Maffi, directeur du navire à Aubenas, c'est au tour de Patrick Dallet. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Directeur du cinéma Le Vivarais à Privas, de faire un petit bilan 2022 du cinéma avec nous et de parler des perspectives pour 2023. Alors, on le rappelle, hein, les salles françaises ont accueilli 27% de spectateurs en moins en 2022 par rapport à la situation d'avant Covid, c'est-à-dire 2019, ce qui est une baisse beaucoup moins importante que dans d'autres pays, hein, comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis ou la Corée du Sud. Mais quand même, alors, quel est le bilan du cinéma Le Vivarais, un cinéma qui diffuse à peu près 70%, c'est ça, de films classés arrêt-essai.
Oui, tout à fait, oui. Donc, moi, j'ai trois labels. Donc, en fait, jeune public, recherche, découverte, patrimoine. Un label aussi européen, Europa Cinéma. Alors, les 27%, c'est 27% sur une moyenne, non pas d'une année qui a été exceptionnelle, c'est-à-dire 2019, c'est une moyenne 2017, 2018, 2019. Si on fait sur 2019, on frôle les 30%. Okay. Donc, les cinémas arrêt-essai dont je fais partie s'en sont plutôt mieux sortis, avec une légère différence par rapport à la moyenne, sachant que les multiplexes, là pour une fois, la fable du chêne et du roseau est tout à fait pertinente, dans la mesure où plus les établissements étaient importants, plus ils ont subi une baisse importante, pour la bonne raison que ce qui a manqué énormément, c'était les sorties américaines, qui beaucoup sont passées sur les plateformes, etc. Donc en fait, c'est vrai que c'était quelque chose qui était quand même... L'exposition des films en salle, c'est quelque chose dont on parle depuis de nombreuses années. Et en fait, les distributeurs américains l'ont rêvé, le Covid l'a fait. Et maintenant, il commence à y avoir un petit peu une redistribution des cartes, dans la mesure où Netflix perd des abonnés, etc. Donc voilà, là c'est plutôt un saut, mais je reviendrai effectivement sur le bilan. Par rapport à la perspective du cinéma aujourd'hui dépendra totalement de ce que l'on appelle de la chronologie des médias, savoir comment les films vont être exposés, comment les films américains seront exposés, s'ils le sont encore. Voilà. Quant au cinéma arrêt-essai, le public a été plutôt fidèle, mais... on en a quand même perdu un peu dans la bataille parce qu'il y a des gens qui ont subi, comme beaucoup d'entre nous, le pass sanitaire, etc. Donc ça n'a pas été une année très facile non plus, avec quand même une disparition de certains films au catalogue, etc. Donc une valeur sûre, on peut dire, c'est l'arrêt essai, avec un public qui à peu près a suivi les choses. Donc sur Priva, on est 1%, pardon, 1% au-dessous de la moyenne nationale, voilà. Donc, et les perspectives, voilà, ça va dépendre un peu de... C'est tout un écosystème qui s'est effondré. Donc, je peux absolument pas augurer de l'avenir du cinéma aujourd'hui. Je pense que normalement, on retrouvera jamais les niveaux de 2019, qui était une année exceptionnelle, mais on devrait pouvoir... remonter à moins 10%, c'est pas mal. Si on passe de moins 30 à moins 10, ce sera génial.
Justement, sur ce public arrêt-essai, alors comment vous l'entraînez, ce public arrêt-essai, vers des films, justement, qui ont moins cette exposition médiatique que la plupart des gros succès
Bah, en fait, déjà, bon, c'est moins difficile qu'avec l'autre public, le public jeune, etc., qui, lui, par contre, est resté un peu devant son canapé, puisque l'offre était importante. C'est ce public, en fait, il a déjà été formé au cinéma. C'est d'ailleurs, entre autres, une des préoccupations majeures, c'est que ce public, il est vieillissant. Et le renouvellement de ce public, il sera difficile, bien qu'il y ait des opérations telles que le dispositif d'éducation à l'image indispensable. Je ne sais pas si on arrivera à combler justement cette grosse lacune. Donc ce public, moi j'ai un programme. Le programme, alors, j'étais au dernier congrès, là, au Repas Cinéma, et donc... partout où vous allez aujourd'hui, on vous parle de la numérisation, de la digitalisation, la présence sur les réseaux sociaux. Et là, au miracle, on parle du papier. C'est génial, hein. Les modes, ça tourne. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours été fidèle au papier. Et y compris des éditos que j'écris, je m'implique, etc. Ça crée une véritable proximité. Je m'aperçois aujourd'hui, et je suis ravi de m'apercevoir que... tout le monde commence à reconsidérer le papier et puis se dire, bah, finalement, les réseaux sociaux, il y a une telle prolifération d'informations que finalement, ça s'annule. Donc, c'est original aujourd'hui de faire du papier. Donc, je dirais que bah, je crée un véritable lien avec ces programmes qui sont... il y a la lecture. Là, en ce moment, je raconte une petite aventure. J'estime que tout ce qu'on peut raconter, de toute façon, a quelque chose de cinématographique. Voilà, c'est l'imaginaire créatif qui fonctionne avant le film, et donc tout ce que l'on peut raconter, c'est toujours une préparation au cinéma. Finalement, c'est une mise en bouche. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi quand on le peut faire venir des réalisateurs, etc. Donc ça crée des véritables rencontres. Les concerts, on a fait pas mal de concerts, voilà. Et puis, donc, je me suis quand même immiscé sur les réseaux sociaux, voilà. Mais voilà, c'est... on a un public très fidèle.
Mmh. Et donc, ce sera la force du papier qui va venir...
J'ai toujours cru à l'écrit.
Mais donc, l'écrit, en même temps, l'écrit se lit aussi sur les écrans.
Bien sûr, oui.
Donc, d'accord, donc plutôt quand même positif pour 2023, optimiste.
J'essaye de l'être, il y a des jours où je le suis, quand je suis fatigué je le suis un peu moins, optimiste, je sais pas, on va faire mieux, c'est certain, on va faire mieux, il va y avoir un redressement. Déjà, bon, il n'y a pas eu beaucoup de cinéma, enfin, je n'ai pas, à ma connaissance, eu vent de cinéma qui fermait. Mais bon, ça fait plaisir de savoir qu'effectivement, la qualité, les films d'auteur résistent mieux. Et ça, c'est franchement, c'est vraiment une leçon. Et donc ça, c'est très, très, très, très positif, ça.
Très positif. Et bien justement, on va commencer, du coup, avec le premier film dont on va discuter ensemble. Merci, Patrick.
Uite, tata, ne vedem câțiva colegi la Roxana. Ascultăm muzică, mai povestim.
Metronom 72. Prezintă Cornel Chiriac.
Dragă Cornel, suntem un grup de prieteni, colegi în ultimul an de liceu. După cum știi, viața în România s-a schimbat mult de când ai fugit tu. Propaganda de partid și-a întins încet tentaculele peste viața noastră. Cu toate astea, noi încercăm să ne ținem tare.
Ce cauți aici?
Am venit.
Ai zis că nu vin.
De ce să nu vin?
Cine e gazda?
Ce am făcut atât de rău?
Ați întâlnit clandestin, ați complotat, ați scris scrisori, ați contactat cetățeni străini care să ia scrisorile, să le duc la Europa Liberă.
Răghiți ce? O să am grijă de chestia asta.
Nu mai am numit declară.
Îți bagi joc de noi?
Aici e vorba de temiță, băi tâmpitul, de angrei de închisoare. Tu realizezi asta?
Iartă-mă!
Tu ce vrei să-ți distrugi tot viitorul pentru ceva ce nici măcar n-ai făcut? De ce te porți? faites ça.
Alors, on parle à la radio de cinéma. Qui parle de la radio ? Avec Radio Métronome, qui nous plonge surtout dans les années Ceausescu et son système de surveillance. Didier et Patrick, je pense que tu as vu ce film, Métronome,
Radio
Métronome.
Non, alors Radio Métronome, je ne l'ai pas vu.
Didier.
Donc je vais tout seul à en parler, mais je vais en dire grand bien. Donc ça commence bien ce programme. Donc Radio Métronome, c'est un premier film, un film d'un jeune Roumain qui s'appelle Alexandru Bel, qui n'était d'ailleurs pas né à l'époque dont il parle dans son film, et qui revient, comme tu le disais, sur les années Ceausescu et le flicage hyper organisé de la Securitate sur le peuple roumain. Radio Métronome, c'est une radio, c'est une émission de radio qui était émise à travers cette radio libre de l'époque qui s'appelait Radio Free Europe, donc qui émettait quelque part d'un bateau dans le Pacifique. Et cette émission était animée par un dissident roumain qui avait réussi à fuir le pays, et l'émission était évidemment, c'est un peu comme nous pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle était absolument interdite par le pouvoir, mais elle était écoutée par tous les jeunes, en particulier d'une façon clandestine. Et le film raconte l'histoire de ces petites bandes de jeunes, ils ont 16-17 ans, ils sont étudiants pour la plupart, mais pas que, et qui ont décidé en plus d'écrire une lettre à leur animateur favori, pour qu'elle soit lue à l'antenne et où ils racontent un peu ce qui se passe dans leur pays. Mais pas de chance, la lettre est interceptée, tout le monde est arrêté, et on rentre là dans cette espèce de système sécuritaire absolument effrayant, où on va faire pression par absolument tous les moyens, donc violence verbale, menace de viol, chantage affectif au niveau de la famille, etc., etc., et qui vise à faire de chacun, en fait, un espion, un indicateur pour tous les autres. Donc c'est un système absolument abominable, et c'est très très bien démontré dans le film que j'ai trouvé. Ça aurait pu vite tomber dans la caricature et tout, c'est absolument pas le cas. On suit un personnage en particulier dans cette histoire, et on voit comment elle va être petit à petit engluée dans ce piège, hein, puisque c'est un véritable piège, puisque au-delà des menaces, on fait aussi miroiter une vie merveilleuse. C'est-à-dire, si tu fais partie des nôtres, là, te fais pas de soucis pour tes examens, tout ira bien. Et donc,
corruption généralisée,
et puis des méthodes qui sont absolument effrayantes. Donc, c'est un montage très nerveux sur le film, hein, on va très très vite. On est vraiment plongé au cœur de ce système avec ces jeunes, et on est totalement impuissant avec eux, et on pense à des films alors un peu plus anciens déjà, comme La vie des autres, qui racontait un peu la même histoire mais là dans l'Allemagne fédérale, ou plus récent l'année dernière je crois Varsovie 83, qui racontait aussi ce même genre de problème en Pologne. Voilà, donc film sur la mémoire, donc tous ces films sur la mémoire pour moi sont des films importants. D'autant plus important que nous vivons quand même aujourd'hui aussi, c'est un film sur la mémoire, mais c'est aussi quelque part un reflet de notre époque, puisque je lisais là il y a quelques jours à peu près 50% de la population mondiale vivait aujourd'hui sous un régime autocrate. Donc tout ça, ça fait des films très utiles à voir, et des souvenirs à ne pas oublier.
On parlera d'ailleurs d'un autre film, justement, sous un régime autocrate. Ouais, autocrate. Merci. Donc, on peut voir Radio Métronome, justement, au cinéma Le Vivarais de Privas, samedi à 18h30, dimanche à 20h et mardi à 18h. On va rester dans une autre période sombre de l'histoire, avec Charlotte, de Éric Varin et Tahir Rana, qui nous raconte l'histoire de Charlotte Salomon, artiste juive allemande au destin tragique, dont le romancier David Fuenkinos avait déjà fait un livre qui s'appelait Charlotte.
Il y avait eu le prix Goncourt des lycéens, je crois,
ouais,
à l'époque.
Ouais. Alors, Charlotte,
tu l'as vu, peut-être que tu peux commencer.
Alors, je l'ai vu il y a déjà pas mal de temps, mais c'est un film qui m'a marqué.
Alors c'est toujours un peu difficile, le film d'animation, enfin tout du moins pour le public, c'est difficile, l'animation est souvent associée au jeune public, là c'est pas du tout un film jeune public, quoique ça peut l'être aussi, mais c'est pas un film qu'on va voir à partir de 6 ans, à partir de 7 ans, etc. Donc c'est 12 ou 13 ans, voilà, donc c'est un film qui s'adresse à partir de 12 ans, mais je pense que les gens qui seront le plus touchés par ce film, c'est le public adulte. Donc c'est un film dont le graphisme est vraiment très intéressant, et surtout la technique narrative est vraiment très prenante. C'est-à-dire que tout de suite, comme dans les films d'animation qui sont réussis, on oublie qu'on est dans un film d'animation. Il y a les couleurs, mais on s'attache aux personnages comme on s'attacherait à des personnages réels au cinéma. Et donc il y a la vie de cette femme qui est absolument incroyable, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, donc qui a produit un nombre de dessins absolument incroyables avant d'être déportée et de mourir en déportation. Et elle a créé une œuvre absolument fabuleuse, comme une bande dessinée. Elle a produit. Quand elle s'est sentie menacée, elle a voulu laisser une trace de sa vie et puis surtout de ce qu'elle vivait. Et il y a une histoire d'amour qui est relatée, qui est très belle, qui est très touchante. Et c'est pas du tout un film qui est dans la plainte. C'est un beau film qui raconte une histoire tragique, et par contre c'est très touchant à la fin, parce qu'on voit les personnages, donc
on dévoile pas tout.
Ah, alors faut pas dire la fin, donc c'est très bien, voilà, je dis.
On dévoile pas tout. Didier,
oui, c'est exactement ça. C'est une, donc cette jeune femme juive allemande qui, réfugiée en France, et qui sera déportée à Auschwitz, où elle trouvera immédiatement la mort à son arrivée, et déportée sur dénonciation. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Radio Métronome. Elle a, alors j'avais vu ça dans le dossier de presse, je crois, elle a quand même peint en très peu de temps, parce que comme disait Patrick, elle est morte très très jeune, elle a peint 1325 gouaches, ouais, qui en fait racontent sa vie et l'histoire de sa famille, puisque le film c'est aussi une histoire de famille et l'histoire d'un secret de famille. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet, et comme Patrick le disait, ça fait effectivement partie de ces nouveaux films d'animation qu'on voit là depuis 5 ou 6 ans. Je crois que un des premiers, ça avait été La Tortue Rouge, et qui, de plus en plus, prennent de la place avec grand bonheur sur les écrans, et sortent le film d'animation de ce ghetto enfant.
J'ai trouvé particulièrement réussi les séquences où elle peint, et où ce qu'elle peint prend vie. Et j'aurais, personnellement, attendu qu'il y ait davantage de ces séquences-là, qui sont vraiment magnifiques. Parce que c'est vrai que le reste de l'animation est beaucoup plus simple.
Oui, c'est une animation traditionnelle, mais qui fonctionne bien. Moi, j'avais trouvé que le dessin était tout à fait... C'est un dessin très doux, qui contraste un peu avec la dureté de cette histoire.
Et avec ses œuvres à elle aussi. Oui. Donc Charlotte, qu'on peut voir au cinéma du Teil, Le Regain, dimanche à 21h, mardi à 16h30 et 18h30. Autre ambiance, autres horizons, cette fois avec le film d'Héloïse Péloquet, La Passagère, avec Cécile de France et Félix Lefebvre. Alors Didier, est-ce qu'on embarque avec La Passagère?
On peut embarquer, d'autant plus que c'est Cécile de France qui joue le rôle, et que qui ne voudrait pas embarquer avec Cécile de France, qui est pour moi en tout cas une des très très grandes actrices francophones actuelles. Donc ça se passe sur une île, et c'est l'histoire donc d'un couple. Ils sont mariés depuis 20 ans, lui est un Ilien, elle est la, entre guillemets, pièce rapportée, et tout va bien. Elle a appris le métier de pêcheur, ils ont des amis, enfin, sans histoire. Lorsque débarque un apprenti, et on va retrouver l'histoire classique du trio amoureux et tout. C'est plutôt bien fait, mais à mon avis, le grand intérêt du film n'est pas là. même si c'est intéressant parce que ça montre aussi comment une femme de 40 ans peut à un moment changer de vie, laisser parler ses sentiments, donc c'est tout ce qu'on entend actuellement un petit peu partout, donc le film surfe un peu sur cette mode, sur cette vague, mais moi ce que j'ai trouvé très très intéressant, et d'ailleurs ça justifie le titre du film La Passagère, c'est que cette femme qui est sur cette île depuis 20 ans, qui a des amis partout, qui est invitée dans toutes les fêtes, dans les choses comme ça, va s'apercevoir qu'en fait non, c'est pas comme ça que ça se passe et que c'est un milieu très très fermé et que quand on fait un pas de côté, on devient très très vite paria. Et ça, c'est très très fort, c'est vraiment le cœur du film, même si c'est pas l'histoire principale, c'est vraiment là que le film se passe, c'est son titre. Elle n'est qu'une passagère, quelquefois. Et donc, comme je le disais au début, Cécile de France, voilà, porte le film est vraiment entièrement sur ses épaules. Elle est, on sent l'amour que lui porte la réalisatrice, puisqu'elle est absolument magnifiée et lumineuse. Et tout ça, je trouve ça très intéressant aussi, c'est Alain Cavalier qui disait ça, qui disait à un moment il faut arrêter de maquiller les actrices, et là c'est pareil, elle ressemble à Cécile de France à l'âge qu'elle a aujourd'hui, et elle est absolument magnifique.
Ouais. La Passagère, qu'on peut voir au cinéma Le Foyer à Rosières ce soir à 20h30 et demain samedi à 18h, mais aussi au Vivarais encore, mais quel cinéma formidable le Vivarais à Privas. Ce soir à 21h, samedi à 18h30 ou dimanche à 14h30. Aucun ours de Jafar Panahi.
Saygıran'da iki tane büyük taş var. Biri kızı otudarla sol taşın üstünde. Oğlanı da otudarla sağ taşın üstünde.
Dediniz ki oğlan sağ tarafında, kız sol tarafında. Bunlar bunlar eğer evvel olsa yerine mi?
Ayman, şuma tuyun rusta aç zirifti.
Aç sezatun hastan. Ayman des. İn aç dehimarı rikti ve hem in mazera hem imarı felet gerdi.
Bak bil. Burada bir tane işi mahana dalıyız kesmek.
Aymandes yürsen Erkan düşe. Sen ama Aymandes.
دیگه داره دیگه بابا حق بدین یه کارگردان ممنون خروج اومده بس نشسته لب مرز هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده
خب حالا دقیقا مرز کجاست
دقیقا رو مرز هست
شما دیشب رفتیم جاده مرزی ما اینجا محلی هستیم نمیریم اونجا میترسیم بریم اونجا
راه هم نیست خیش از تو هم
خطر داره
قان تو شهر سن در او سوالار اولدرن لن
چو زانم کرادال اخری کم دخیم کیم نزانم دهاتون نیه کار شغلم نیه آزادیم نیه نقصانه ایدی
از ارسا چی؟
بابا خیشی وجود نداره اینا به ما یاد دادن که خیش هست
Aucun ours de Jafar Panahi, prix spécial du jury à Venise. Un film sur l'oppression des femmes et des artistes tourné par le cinéaste iranien juste avant d'être emprisonné pour propagande contre le régime. Patrick, est-ce que tu as vu ce film, Aucun ours ?
Oui, je l'ai vu, oui, c'est... Alors bon, il est toujours... Jafar Panahi, il est toujours empêché. Donc en fait, son cinéma, il est un petit peu, conditionné par les interdits. Et donc il y a toujours énormément, c'est très métaphorique. Donc c'est un peu son cinéma, c'est un peu les fables de La Fontaine, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment parler de choses, mais sans en parler. Mm-hmm. Voilà, et comprendre qui pourra et qui voudra. Et là, c'est pas réellement, il attaque pas réellement le système, il attaque plutôt la tradition. Et puisqu'il est dans un village Et donc, c'est le réalisateur donc, qui vient de la grande ville. Donc, il est aidé par la population. Il y a une espèce de déférence. Et là, on sent qu'il y a une espèce... Là, c'est un décalage de classe sociale. Mais très, très vite, la population commence à se méfier de ses intentions. Et puis, il fait du cinéma, c'est un peu dangereux tout ça. Et très vite, en fait, cette confiance et cette déférence devient une suspicion. Donc il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose de très, très parodique. Et on frise toujours la comédie dans ces films, tout en traitant de sujets extrêmement graves. Et donc, il y a quand même, on sent le danger, la proximité de cette frontière. Alors il est en Iran, c'est la frontière avec la Turquie. Voilà. Et donc, il essaye de passer. Alors, je sais plus pourquoi il veut passer. Tu t'en souviens?
En fait, il montre dans son film. Ce qu'il a inventé entre guillemets dans la réalité, comme il est interdit de tourner depuis je sais pas combien de temps et qu'il a tourné depuis je sais pas combien de films en clandestinité, il joue le jeu de la double équipe. C'est ce que Yılmaz Güney faisait avec quand il était en prison et tout, c'est-à-dire que lui il est visible et il dirige une équipe qui est ailleurs. Et là donc il est à la frontière irano-turque. Donc, côté iranien, évidemment, et il a une équipe qui est en train de tourner un film en Turquie. Là, quand même, il attaque quand même le pouvoir de façon assez claire, puisque ce film qui est en train d'être tourné en Turquie est sur l'exil, c'est-à-dire les Iraniens qui veulent quitter l'Iran et qui ne peuvent pas, qui sont emprisonnés chez eux. Je trouve que le film est très très intéressant parce que, en plus, c'est un garçon incroyablement rusé. Dans Taxi Téhéran, il y a quelques années, il faisait monter les gens dans un faux taxi. Donc on est toujours un peu aussi entre documentaire et fiction. Et là, dans ce village, effectivement, c'est une fiction. En même temps, c'est les gens du village. Donc il y a une part de documentaire qui est très très très très présente. Et il va être mêlé à une histoire, une sorte d'histoire de Roméo et Juliette, encore une fois, deux clans familiaux qui s'opposent pour avec qui on va marier la fille, qui évidemment n'a rien à dire. Et lui va être pris entre deux feux dans cette histoire-là. Donc c'est à la fois un film qui effectivement parle quand même de la répression en Iran d'une façon très très claire, même si, comme tu le dis, il y a toujours des grilles de lecture, et qui parle aussi, et là très très clairement, du poids des traditions dans ce village. Et comme c'est tourné avec absolument aucun moyen, il y a de l'humour. Il introduit un peu d'humour là-dedans, par exemple pour diriger cette fameuse équipe qui se trouve de l'autre côté de la ligne de frontière. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réseau, quoi. Donc il faut monter, il faut trouver, et on espère qu'il n'y aura aucun ours sur le chemin.
Voilà. Non, alors, l'histoire de l'ours, justement, c'est qu'on lui dit qu'il ne peut pas aller dans la montagne parce qu'il y a des ours. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour l'empêcher de passer à la frontière turque. Alors, ce qui est exceptionnel dans le film, en fait, c'est que on se demande à chaque fois, d'ailleurs, dans tous ces films... Alors, j'ai regardé le générique. Les gens ne jouent pas... Enfin, à mon avis, il y a une véritable mise en abîme, mais ce sont des acteurs, a priori.
Pas tous.
Alors, ils ne portent pas le nom dans le générique. Ils ne portent pas le nom qu'ils ont dans le film.
Ils changent les noms, ouais. Mais ça, je... pense que, enfin, j'en sais rien, mais c'est peut-être aussi pour des raisons de sécurité.
Il y a des scènes, on se dit, c'est pas possible. Ça peut pas se. En plus, comme c'est des plans assez longs, il y a des moyens techniques qui sont vraiment très très limités. On se dit, mais c'est un opportuniste génial, ou soit c'est un metteur en scène extraordinaire, quoi. C'est toujours, on se dit, comment il a réussi à faire. À retranscrire des scènes de cette façon. Moi, je crois que c'est qui joue énormément sur la spontanéité. Hein.
Absolument.
Et donc c'est assez bizarre parce que on ne sait pas si on nage dans la fiction pure ou dans le documentaire, mais c'est les deux. C'est
on
les deux à la fois.
Les deux.
C'est
toujours entre.
Donc c'est une atmosphère
à la frontière. comme il l'est lui-même, à la frontière.
Qui est une frontière extrêmement dangereuse, puisque c'est une frontière qui est fréquentée par des contrebandiers et qui ne supportent pas qu'on se mêle de leurs affaires. Donc, c'est-à-dire qu'aller aussi sur la ligne de frontière, c'est aussi risquer sa vie. Donc, l'ours, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on risque sa vie de différentes façons.
Aucun ours de Jafar Panahi qui est à voir au cinéma.
Et qui est toujours emprisonné avec d'autres réalisateurs iraniens. Il faut le rappeler.
C'est bien de le rappeler. Ouais. Merci Didier. Donc aucun ours qu'on pourra voir au cinéma ce soir au Vence, au cinéma Vivance, à 20h35 par exemple. Et on va terminer assez rapidement en légèreté avec l'un des films coup de cœur de Christophe Maffi quand il est venu ici même la semaine dernière. Il nous parlait des Cyclades.
Oui, alors, moi personnellement, c'est pas un coup de cœur. C'est un film agréable. C'est une comédie légère qui est plutôt bienvenue en ce début d'année, un peu triste et un peu morose pour plein de sujets d'actualité. Donc c'est le nouveau film de Marc Fitoussi. On peut citer quelques-uns de ses précédents films, Les Apparences, Pauline Détective, Copacabana, et qui a peut-être pour particularité d'avoir le plus souvent comme personnages principaux des personnages féminins. Et c'est encore le cas là, puisque on est quand même, je crois que c'est à 90% dans des personnages féminins. C'est l'histoire de deux anciennes amies, donc Blandine qui est jouée par Olivia Côte et Magali qui est interprétée avec énormément de virulence par Laure Calamy, comme d'habitude, qui étaient les meilleures amies au collège, et puis qui se sont séparées sur un truc pas très clair, et puis il y en a une qui a déménagé, se sont complètement perdues de vue et tout, et elles se retrouvent 30 ans plus tard, pas tout à fait par hasard d'ailleurs, mais ça le spectateur le découvrira, et elles sont devenues, mais alors totalement l'opposé l'une de l'autre. Blandine est une introvertie qui se remet pas de son divorce, qui fait plus rien, qui est d'une tristesse infinie, qui est maniaque, voilà. Et Laure Calamy qui, elle, Magali, a développé ce qu'elle portait déjà en elle, c'est-à-dire elle est totalement extravertie, elle éclate de vie, c'est une bulle de champagne 24 heures sur 24.
Donc le principe de la confrontation.
Le principe de la confrontation qui n'est pas nouveau au cinéma. Et elles vont partir, après toute une série de quiproquos, elles vont partir réaliser un de leurs rêves d'adolescente, c'est-à-dire d'aller dans les Cyclades voir là où a été tourné Le Grand Bleu, qui était leur film mythique de leurs 15 ans. Et évidemment, ça ne va pas très très bien se passer, elles sont tellement différentes. Donc ça, c'est l'histoire du film, qui n'est pas désagréable, mais qui est quand même, quelque part, c'est un peu réchauffé, on a déjà vu ça plein de fois. Mais arrive un personnage qui, à mon avis, moi, est le personnage le plus intéressant et le plus profond, qui est joué par Christine Scott-Thomas, et qui, elle aussi, sous des apparences d'extrême légèreté, porte en elle toute une gravité qui va petit à petit se révéler dans le film. Et ça c'est vraiment quelque chose qui retourne un peu le spectateur et qui retourne aussi le film. Donc, à mon sens, le film un peu trop caricatural sur ses personnages principaux, mais une bulle de champagne aussi dans ces temps hivernaux.
Une bulle de champagne qu'on peut aller déguster au cinéma Le Navire à Aubenas. Alors c'est ce soir à 17h45, 20h30, mais aussi tous les jours suivants.
Je peux ajouter une chose, ça fait du bien aussi, vu la météo extérieure, d'être un peu dans les Cyclades là, avec le soleil, le ciel bleu et la mer.
Et puis c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher que d'aller prendre un avion. Et beaucoup plus écologique. Merci Didier. Eh bien, on va passer à l'actualité du cinéma qui est bien riche cette semaine en Sud-Ardèche. Mais avant, Patrick, dans l'actualité, tu voulais nous parler d'un film que vous allez projeter au cinéma Le Vivarais.
Alors, je voudrais juste faire une parenthèse, je le passe aussi à Les Cyclades à Privas.
Ah, ok, bon, bah, parfait.
Voilà. Donc, il est aussi au Vivarais, Les Cyclades. Oui, je voulais faire une petite parenthèse sur un film qui s'appelle Lutine. Voilà. Film d'Isabelle Brouet. Alors, Isabelle Brouet, donc, je l'ai appris, puisque je l'ai eu au téléphone il y a très peu de temps. Qu'en fait, elle avait fait plusieurs tentatives parce que Elle voulait absolument, c'était le Graal, passer à Privas. Pourquoi à Privas? Sachant que le film a tenu l'affiche dans un petit cinéma à Paris pendant une année. Et donc, effectivement, le film, donc, Lutine, d'Isabelle Brouet, qui est la réalisatrice et aussi l'actrice principale, a malheureusement été un peu sacrifié par le Covid, puisque sa sortie était en 2019. Donc, elle essaye de rattraper un peu les choses. Et donc, pourquoi Privas? Parce que donc cette femme est originaire de Privas, et donc elle m'a raconté un peu toute la vie de ses ancêtres sur Privas, etc. Donc c'était d'ailleurs assez passionnant. Et je sais pas pourquoi, elle a essayé, elle a fait une tentative en 2019, en 2020, etc. Je sais pas pourquoi, les mails sont passés dans les spams, etc. Donc alors, Lutine. Donc chez moi,
on a très peu de temps.
Donc ça va passer donc au Vivarais, en présence
quand
d'Isabelle Brouet.
Oui, quand?
Le lundi 23 à 20h30.
Lundi 23 janvier,
voilà.
20h30.
Et est-ce que j'ai le temps d'en parler un peu?
Allez,
pas
oui,
tellement.
Un mot,
oui,
si, quand même. Pour
alors,
ce que
c'est une comédie vraiment sympa, c'est une espèce de mise en abîme pour un sujet qui, moi, me passionnait pas forcément, mais elle a réussi à en faire quelque chose de vraiment très drôle, donc qui sont les amours pluriels, qu'on appelait autrefois le libertinage. Et c'est vraiment très intéressant. Donc là, c'est une mise en abîme, c'est un faux documentaire où, finalement, tout le monde, c'est un peu vaudevillesque, tout le monde se mélange les pinceaux, c'est plus finalement qui aimait, à quel sens vouer, etc. Donc c'est assez bien mené, et puis surtout, bon, cette Isabelle Brouet est pleine d'enthousiasme. Je sais pas si elle a l'enthousiasme de Laure Calamy, mais à mon avis, elle doit l'égaler très largement. Et c'est vraiment très sympa. Donc j'ai découvert le film et je me suis dit, avec une proposition donc que j'avais d'avance, puisque la veille elle sera au Vence, je me suis dit ça serait très bien dans mon cinéma, et voilà, donc l'affaire a été conclue, et donc elle vient présenter son film lundi 23 à 20h30.
Et la veille au Vence, pour ceux qui sont tout plus dans le sud Ardèche, Lutine d'Isabelle Brouet. Avant ça, dans l'agenda, vous pouvez retrouver dès ce soir Sans peur de Emmanuel Saez pour un vendredi 13 qui se respecte, hein, un film interdit aux moins de 12 ans. Il est projeté au Regain, le cinéma du Teil, à 20h, et surtout en présence d'une bonne partie de l'équipe du film, dont le réalisateur. Donc c'est un film à découvrir, hein, qui a reçu de nombreux prix internationaux, et puis c'est un beau clin d'œil et une belle initiative pour ce vendredi 13. Sans peur, donc, au Teil, ce soir, à 20h. Un mot aussi sur Les Miens, qui sera projeté à Tueil. Les Miens, c'est le beau film de Roche Dizem, dont on a déjà parlé ici, dans le Cinémascope, qui est à voir, donc, ce soir à 20h30 à Tueil, grâce à la Maison de l'Image. Mardi, je tenais à en parler quand même, c'est à Barjac, mais on rediffuse Riposte féministe, le film de Marie Pérennes et Simon Depardon, qui est un film fougueux et nécessaire, qui est à voir donc au cinéma Le Regain de Barjac, mardi 17 janvier à 20h30, suivi d'un débat avec un collectif féministe. Et Sylvain commence à me faire les grands yeux, parce que on a déjà juste deux petites choses, alors, ou au moins un, pour terminer. Allez, on termine avec celui-là, ce sera le ciné-débat jeudi au cinéma Le Navire, avec la projection du documentaire Roland Gory, une époque sans esprit, en présence du réalisateur Xavier Gaillan. Et c'est un portrait intime du psychanalyste, hein, qui se bat depuis des années contre la marchandisation et le délitement de notre société, autant qu'un portrait de sa pensée et de son engagement. Et c'est une belle soirée en perspective que l'on doit au Carrefour laïque d'Aubenas. Et ça, ce sera donc jeudi 19 à 20h. Voilà, on peut souffler pour l'agenda. C'est terminé, Cinémascope. Merci beaucoup, Patrick Dallet, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci Didier.
Merci Sophie.
Pour tout ce film. Merci Sylvain, à la régie. C'est terminé pour Cinémascope. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère toujours, avec Olivier, à qui je passe le bonjour. Et puis vous restez sur Fréquence 7, puisque ça continue. Cet après-midi, vous avez rendez-vous avec la chronique du Hérisson à 16h30, les chroniques du Hérisson à 16h30, 19h, l'éternel de la musique, et 20h, Wild Wise Music.
caméra, oui. Voilà, alors la caméra passe. What is this car? Easy, easy, old man. She's not hurt.